histoires multiples. Quand nos aînés nous parlent du passé. Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio Sommière pour l'émission d'histoires multiples. Aujourd'hui, nous interviewons Monsieur Rouvière, ancien du village, qui a 93 ans. Nous sommes la classe de CE2 de l'école de Montmirat. Monsieur Rouvière, nous sommes très curieux et avons préparé beaucoup de questions. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes. Bonne interview à tous. Bonjour, je m'appelle Mélie. Est-ce que vous avez des enfants, des petits-enfants ?
Oui, bonsoir à tous. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude du micro, mais bien sûr, j'ai 3 enfants, 6 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants.
Bonjour, je m'appelle Ryan. Quel sport pratiquez-vous ?
J'ai pratiqué un peu de sport, un peu de cyclisme dans ma jeunesse, un peu de judo, mais il y a très très longtemps. Là, le seul sport que j'ai continué à pratiquer jusqu'à ces derniers temps, si on peut appeler ça un sport, c'est la chasse, voilà.
Quel était votre plat préféré quand vous étiez enfant ?
J'étais pas difficile. Quand j'étais enfant, on n'avait pas le choix qu'on a maintenant, donc on n'était pas difficile. On mangeait tout.
Est-ce que vous avez des animaux ?
Plus maintenant, mais j'ai eu souvent et beaucoup d'animaux, oui.
Quel était votre animal préféré ?
Mon animal préféré, oh, c'est le chien. Ouh là là, drôle d'interrogatoire, là. Hein.
Bonjour, je m'appelle Annaëlle. Quel est votre passe-temps favori ?
Mon passe-temps favori, c'était la chasse, oui. Un peu la pêche, mais surtout la chasse.
Avez-vous une femme ?
J'avais une femme, mais elle est décédée.
Comment s'appelait-elle ?
Elle s'appelait Simone, et elle est restée institutrice ici pendant longtemps.
Pouvez-vous nous en parler ?
Vous en parlez... Nous sommes mariés en 59 et nous nous sommes installés ici dans le logement qui était le logement des instituteurs. Et nous sommes restés là pendant 15 ans. Nos enfants sont nés ici. Et voilà, après, l'école a dû fermer avant qu'elle parte à la retraite et elle a dû s'exiler à l'école de Moulaisan, ce qui lui a été très difficile parce qu'elle était très attachée à son école. Et puis, à la retraite, elle est décédée à 77 ans. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Naël. Quel était votre métier avant ?
J'étais agriculteur, mais j'ai fait un peu de tout. J'ai fait surtout un peu d'élevage.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier ?
C'est-à-dire que je suis enfant d'agriculteur. Je n'ai pas poursuivi mes études dans la mesure où j'étais un bon élève. Classe, je suis venu, j'ai fait mes premières années de classe ici jusqu'à 13 ans, année où le certificat que l'on devait passer au mois de juin avait été avancé par la peur d'un département allié, c'était pendant la guerre, donc on avait passé le certificat d'études au mois d'avril ou mai, précocement, et voilà, ma scolarité c'est pratiquement terminé là. Mes parents sont mis en pension dans une école privée qui se trouvait pas bien loin d'ici, à Primecombe, et là j'ai pas pu m'adapter, je n'ai pas continué, donc ma scolarité s'est arrêtée là, voilà. C'est pour ça qu'après, j'avais pas le choix, j'ai travaillé avec mon père et nous avons continué le travail des vignes, le travail des champs.
Est-ce que c'est à cela que vous rêviez quand vous étiez enfant ?
Oh oui, vous savez, quand on est enfant, on rêve pas à beaucoup de choses. Oui, apparemment, il n'y avait pas d'autre chose en vue. Un peu plus tard après, j'ai eu des envies comme tout le monde, mais enfin, ça s'est arrêté là.
Combien de temps avez-vous fait ce travail ?
Oh, j'ai fait ce travail toute ma vie parce que après, quand je suis arrivé à la retraite, chez mon fils qui a continué la propriété et je l'ai aidé. J'ai aidé un peu mes enfants. Donc, je vais continuer toute ma vie jusqu'à pas bien longtemps encore. En même temps, je peux plus.
Comment avez-vous appris votre métier ?
Ben, vous savez, le métier, ça s'apprend sur le tas, comme on dit. Tout petit, j'accompagnais mon père. C'était pas difficile de faire l'agriculteur. On n'avait qu'à regarder comment faisaient les autres et j'ai appris. J'ai appris à tailler, j'ai appris à travailler avec les chevaux, parce qu'à ce moment-là, on travaillait avec les chevaux encore. Et voilà, après est venu le temps des tracteurs, la modernisation, j'ai vécu tout ça.
Bonjour, je me présente, je suis Mathéo. Avez-vous vécu la guerre ?
Non. Je suis né à Montmira et il y a 93 ans que je suis là. À part le temps de mon service militaire, je suis toujours resté à Montmira.
Quelle était votre marque de voiture préférée et pourquoi ?
Oh, alors là, j'en ai passé plusieurs. Mais je me souviens d'une anecdote. Quand j'étais enfant, comme vous, c'était pendant la guerre, et nous avions dans la cave, ce qu'on appelait la cave, une voiture, mais cette voiture était sous un grand drap parce qu'elle n'avait plus de roues. Les roues avaient été réquisitionnées par les Allemands. Et quand j'étais enfant, comme vous, j'allais souvent m'asseoir dans cette voiture. C'était une Renault. Et là, j'ai fait des rêves. Je rêvais de pouvoir conduire cette voiture. Et puis, la libération est arrivée. Et j'ai commencé sur cette voiture alors que j'avais 16 ou 17 ans. Voilà, c'était ma première voiture. Après, bien sûr, j'en ai eu pas mal d'autres.
Comment vous déplaçiez-vous avant ?
Ah ben avant, ça dépend ce qu'on entend par avant. Mais pendant, quand j'étais comme vous, après, c'était le vélo. Ça a longtemps été le vélo jusqu'à 20 ans à peu près. On se déplaçait en vélo. Quand nous étions jeunes, nous allions aux fêtes en vélo. Il n'y avait pas d'autre solution.
Bonjour, je m'appelle Léa. Quand avez-vous eu votre première télévision ?
Oh, ma première télévision, nous étions déjà mariés et nous, les premières années que nous habitions ici à l'école avec mon épouse, nous allions voir la télévision au relais le soir parce que nous ne l'avions pas. Donc cette première télévision, on a dû avoir dans les années 65 à peu près.
Quelle était la différence par rapport aux télévisions de maintenant ?
D'abord, c'était en noir et blanc. Et à cette époque-là, quand on était comme vous, un peu plus âgé, jusqu'à 20 ans, il n'y avait qu'une chaîne. Après, il y a eu deux chaînes, puis trois chaînes.
Que pensez-vous des écrans d'aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a du bon, mais il y a surtout du mauvais. Il ne faut pas en abuser. Il ne faut surtout pas passer trop de temps dessus, parce que d'abord, ça vous coupe des voisins, ça vous coupe de la famille, des amis, et puis c'est pas bon pour les yeux, c'est pas bon pour grand chose.
Bonjour, je m'appelle Jules. Est-ce que les fêtes du village étaient les mêmes qu'aujourd'hui ?
Non, c'était pas tout à fait les mêmes, c'est-à-dire que je me souviens surtout des fêtes. Moi, mon enfance, ma jeunesse a été marquée pendant la guerre ou l'après-guerre, où il n'y avait pas grand-chose. Quand j'ai commencé à avoir 18-20 ans, alors là, avec les copains, on a commencé à s'occuper de faire des fêtes votives. Oui, ça ressemblait un peu à ce... Aujourd'hui, il n'y avait pas des abrivades ou des bandits comme on fait aujourd'hui, mais il y avait des courses de taureaux. Il y avait un bal, mais il n'y avait pas de place à Montmira pour faire un bal. On faisait, chaque année, on essayait de trouver un terrain pour pouvoir faire le bal, et ce n'était pas évident. Alors il y avait des musiciens qui venaient, qu'on embauchait, et qui restaient les 2-3 jours de fête, et qui étaient accueillis par des familles du village qui les nourrissait et qui les logeait. Ça a changé aujourd'hui, c'est plus pareil, mais ça avait son charme.
Y avait-il une fête de la vigne, une vente de bistrot, fête de la Saint-Jean, la transhumance?
On faisait la fête, je me souviens de la fête de la Saint-Jean, où tout enfant, nous récupérions des fagots de sarment chez les particuliers et nous faisions un feu de la Saint-Jean sur la partie la plus haute du village. Oui.
Bonjour, je m'appelle Aïna. Quel a été votre premier téléphone ?
Mon premier téléphone, je pense qu'on l'a eu quand j'habitais là, c'est-à-dire, comme ça, là, quand même temps que la télévision, à peu près. Là. Il y avait, dans le village, il y avait 6 abonnés. Et moi, j'avais le numéro 6. Il y avait 6 abonnés. C'est tout ce qu'il y avait.
Comment communiquez-vous avant ?
Ben, c'était pas facile pour téléphoner, parce que pour téléphoner, il fallait d'abord appeler la cabine téléphonique qui se trouvait chez un particulier à Montmirail, en l'occurrence Madame Calvetti, qui la maison n'est plus habitée. Après, c'est elle qui se chargeait d'appeler à Saint-Mamère, qui Saint-Mamère appelait Nîmes. Et Nîmes appelait le correspondant qui répondait. Vous voyez, c'était pas évident, parce qu'entre-temps, il y avait toujours souvent une coupure. Et c'était pas évident de communiquer. Et pour communiquer, ben, on écrivait.
Aimiez-vous l'école et pourquoi ?
Oui, j'aimais l'école, j'étais un très bon élève, mais voilà, après, j'ai pas supporté la pension et j'ai pas continué. C'est dommage, au regret de mon instituteur qui, à l'époque, n'avait pas été content. Quoi.
Est-ce que quand vous étiez à l'école, les filles et les garçons étaient séparés ?
Non. Vous savez que je suis venu à l'école ici, j'ai fait ma scolarité ici, et je me souviens qu'il y avait un poêle au milieu, là, entouré, et le matin, il fallait garnir le poêle. Mais les garçons et les filles étaient ensemble. Il y avait à peu près à ce moment-là, je sais pas, une vingtaine d'élèves. Après, il y en a eu davantage.
Quand vous étiez à l'école, aviez-vous des uniformes ?
Non, non. Il n'y avait pas à ce moment-là, il n'y avait pas d'uniforme. Et puis, il n'y avait pas non plus des tenues ou des baskets ou des blousons comme vous avez maintenant. On avait des blouses. La plupart du temps, on avait une blouse, mais qui était de différentes couleurs selon les uns et les autres, selon les moyens des familles.
Comment était le village avant ?
Le village a beaucoup changé, c'est-à-dire que quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, toutes les constructions nouvelles n'étaient pas là, bien sûr. Le village n'était pas gaudronné à l'époque, quand j'étais enfant. Et je me souviens, il n'y avait pas d'eau courante dans le village. Je me souviens, quand l'eau est arrivée ici, ça doit être en 57 que l'eau est arrivée dans le village. Ça a été une joie, parce que nous avions dans le village une adduction d'eau, c'est-à-dire qu'il y avait dans le ruisseau là-bas un puits et il y avait une éolienne qui pompait l'eau sur le bassin, sur un bassin au haut du village, qui alimentait des fontaines par gravité. Mais malheureusement, l'été, cette eau devenait rare et les robinets étaient fermés et le cantonnier du village devait faire une distribution d'eau, un seau pour chaque cheval, un seau pour les familles. L'été, l'eau était rationnée. Et pour ceux qui voulaient faire du jardin, ils allaient chercher de l'eau à la rivière.
En quoi le village a-t-il changé ?
Le village a changé comme beaucoup de villages. Beaucoup de gens ont trouvé que c'était agréable, sont venus s'installer et ça continue. En plus de ça, il y a des gens qui ont fait des lotissements et qui ont permis d'attirer pas mal de monde. Là maintenant, je ne sais pas quelle est la population du village, mais moi, dans mon enfance, il y avait, je crois, 180 personnes, 185, quelque chose comme ça, oui.
Était-il beau ?
Tu sais, ton village, c'est toujours le plus beau. Hein.
Est-ce que vous êtes né dans une maison du village ?
Je suis né dans une maison du village, oui. Oui. Qui appartient à mon fils maintenant, qui est en train de la rénover. Mais je suis né là. J'y ai habité jusqu'à mon mariage. Après, j'ai habité ici à l'école. Et puis après, on a construit une maison dans le village. Et depuis, j'habite là, tout seul.
Où était la place du village quand vous étiez petit ?
Il n'y avait pas de place du village. Il n'y avait pas de place. Là, à côté, c'était un champ d'oliviers. Et il n'y avait pas de place.
Bonjour, je suis Laetitia Chapelle. Avez-vous des amis à Montmira ?
Des amis ? Ben oui, j'ai des amis, mais enfin maintenant à Montmira, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Et puis avant les voisins faisaient partie de la famille un peu. Et on s'aidait, on s'entraidait, on partageait les bonheurs, on partageait les malheurs, on partageait tout. Maintenant, moi, j'ai des voisins qui sont à côté de moi depuis de nombreuses années que je ne connais pas. Alors, ça a beaucoup changé dans les villages. Et les gens de mon âge, maintenant, comprenez qu'ils se font rares. Et bon, il reste encore quand même dans des familles avec qui j'ai un peu quelques contacts. Mais enfin, ça commence à diminuer.
Je m'appelle Dean. Est-ce que quand vous étiez petit, le Castellac existait ?
Oui, le Castellac existait quand j'étais petit, mais il existait en ruine. Il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait rien. Puis petit à petit, ça s'est transformé. La seule partie qui pouvait servir d'abri, c'était une bergerie qui était de M. Bénézet. Et puis petit à petit, ça s'est amélioré. Des gens ont acheté et ont retapé des ruines. Mais moi, dans mon enfance, c'était des ruines recouvertes de lierre. D'ailleurs, on allait à l'affût autour sur les lierres de ces ruines-là. Mais c'était vraiment, vraiment tout en ruine, quoi.
Y avez-vous déjà mangé ?
Et le restaurant du Castellas, quand j'étais jeune, il n'existait pas. C'était un terrain qui appartenait aux gens d'en face, qui s'appelait Monsieur Driol, et puis Monsieur Dizier. Et le café, le restaurant était un café qui était à la chapelle là-bas où on appelle la chapelle au clair de lune. Le café était là-bas. Après, le café est venu s'installer là et puis est devenu ce relais du Castellas, mais c'était, oui, comme ça, dans les années 59-60, oui. Il y avait un café là-bas qui était tenu par M. Driol, et puis après il y a eu quelques gérants, mais oui, il y avait le café là-bas. Oui, pendant toute mon enfance, toute ma jeunesse, on allait au café là-bas, faire jouer aux cartes, il y avait les concours de belote, oui. Et après, ça s'est déplacé ici, voilà.
Bonjour, je m'appelle Tommy. Avez-vous déjà vécu une catastrophe naturelle ?
Non, mais tout ce que je me souviens, c'est des dernières inondations qu'on a connues, là, je ne me souviens plus, il y a quelques années, qui ont été importantes, qui ont fait quand même quelques dégâts. Mais on ne peut pas appeler ça des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles, j'ai connu aussi les incendies du bois de Lens à deux reprises. Ce n'était pas des catastrophes naturelles, mais c'était quand même traumatisant. Hein. Mais les incendies, je me souviens, le dernier, ça devait être, il doit y avoir une trentaine d'années. Mais ça avait été impressionnant parce que le feu avait démarré là-haut sur la route de Montagnac et avait parcouru le bois des Lens jusqu'à Fontanès dans la soirée. C'était impressionnant. On avait essayé d'aller au-devant, mais ce n'était pas prudent. Et ça a été un traumatisme parce que pendant longtemps, le bois était désert. C'était épouvantable. Maintenant, le bois est magnifique, ça a bien repoussé, mais on n'est pas à l'abri de nouvel incendie.
De quoi le nom Montmira est-il inspiré ?
Je ne sais pas, j'ai entendu parler de Monde et Merveilles, mais Je ne sais pas si c'était ça ou si c'était pas ça.
Bonjour, je m'appelle Marius. Est-ce que les bois des Lens et les collines qui entourent Montmira ont changé ?
Le bois des Lens, ah, vous savez, le bois des Lens, c'est quelque chose qui m'est sensible parce que j'adore ce bois et encore, presque tous les jours, j'y fais des promenades dedans. Oui, ce bois a changé. Il faut dire que ce bois appartient en grande partie à des propriétés privées. Il y a aussi une partie importante de biens communaux. Et chaque commune qui entoure le massif a à peu près 500 hectares dans le massif des Lens. Il a changé pour la bonne raison que, d'après les incendies, il a été décidé de faire des FCI, c'est-à-dire des grandes défenses contre les incendies de forêt. Ce qui fait que le bois des Lens est maintenant parcouru dans beaucoup de sens par des grandes routes déboisées pour permettre éventuellement l'arrêt de l'incendie. Il faut dire aussi que ça permet la pénétration du massif qui a plus le caractère sauvage qu'il avait. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, d'aller dans les bois des Lens, ça se méritait un peu. On montait à pied. Quand j'ai commencé à chasser, on montait à pied avec le sac sur le dos et c'était pas évident d'aller dans ces bois. Alors donc, le bois a perdu un peu son caractère de sauvage, mais il reste quand même un bois magnifique qui fait l'objet de beaucoup de promeneurs et qui, je l'espère, continuera à rester comme ça. Ça permet aussi à pas mal de gens de pratiquer la chasse, de pratiquer la promenade, mais c'est un bois magnifique. Et c'est vraiment un poumon vert pour les villages des alentours.
Combien y a-t-il de grottes dans le bois des Lens ?
Alors ça, au niveau des grottes, je ne suis pas trop féru, je sais où elles sont, mais ce n'est pas quand même des grottes tellement importantes. Je crois qu'elles ont été explorées, mais enfin, il n'y a rien de bien important, mais enfin, je sais où elles sont, oui. Oui, je sais, dans le bois des Lens, il y a aussi des jolies capitelles, et surtout des anciennes carrières qui ont permis, je crois, la réalisation de la maison carrée, mais qui sont pas sur la commune de Montmira. Sur la commune de Montmira, il y en a peut-être, mais c'est surtout sur la commune de Moulezan où il y a encore des vestiges des anciennes carrières romaines. Hein, oui. Oui, encore, on les trouve facilement et on trouve encore de belles capitelles, encore en bon état dans le bois des Lens. Des capitelles, c'est des cabanes faites en pierre, uniquement en pierre. Oui, je les connais toutes. Encore, il existe une carrière où l'on tire des blocs. Des blocs qui servent, je ne sais pas à quoi, mais à des parements de façade, je ne sais pas. Mais... Par contre, il y en a une qui est exploitée comme pierre concassée, quoi. Alors là, c'est important. Et ça a défiguré le paysage là-haut, ça. C'est très important.
Est-ce que la mairie était pareille ?
Ah ben la mairie n'était pas ici. Hein. C'était la salle de classe. La mairie était en haut, à droite. Et ici, c'était l'école. C'était l'école avec le logement d'instituteurs qui correspondait avec là. Et le préau, là, c'était le préau, là. Et puis, quand j'étais enfant, on utilisait que cette cour. À l'époque, il y avait sans doute la cour des garçons et la cour des filles. Il y avait une sortie de chaque côté. À l'arrière, là, c'était le jardin de l'instituteur. Il y avait même un puits, là, derrière. Oui.
Vous apprenez quoi quand vous étiez à l'école ?
Et on apprenait ce que vous apprenez maintenant. Et on apprenait d'abord à lire, à écrire. Et on apprenait surtout à bien se comporter. On apprenait la morale. On apprenait... C'était rigide à ce moment-là. Hein. De temps en temps, il nous tombait une gifle. Hein, alors que maintenant, c'est défendu. Et on apprenait surtout à être poli. Et en plus de ça, c'était l'instruction. Voilà, mais c'était quand même un peu plus sévère. Ils en ont des questions à poser, ces enfants.
On nous a parlé lors d'une autre interview du garde champêtre. Vous pouvez nous en parler un peu ?
Ben, le garde champêtre, à ce moment-là, on appelait ça garde champêtre, mais il gardait rien du tout, mais il faisait le cantonnier. Il faisait le cantonnier, il entretenait le village, pas comme maintenant, mais il entretenait surtout les chemins de la plaine. Et puis il s'occupait de... À l'époque, il avait une trompette, il passait dans le village et il annonçait une annonce de la mairie pendant quelque temps. Et puis il y avait aussi l'époque où il y avait la restriction d'eau et où il faisait la distribution de l'eau.
Bonjour, vous nous avez parlé du coup d'un café, d'école, de la mairie, mais est-ce qu'il y avait des commerces, une boulangerie
oui,
ou autre ?
Oui, moi, pendant longtemps, il y a eu une boulangerie qui était la boulangerie Granier, après qui est devenue la boulangerie Carteyrade. D'ailleurs, il reste encore Madame Carteyrade, qui a été active longtemps. Après, il y a eu un gérant, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais oui, mais moi, j'ai connu, il y avait... Dans mon enfance, il y avait une épicerie, là-haut, chez Madame Calvetti. Et puis, il y avait des marchands ambulants. Il y avait des marchands ambulants, mais à part la boulangerie et cette épicerie, il n'y avait pas d'autre commerce. Mais il y avait les marchands ambulants, bien sûr, qui passaient, le boucher, le charcutier, et les primeurs, voilà. Mais il n'y avait pas de commerce.
Je pense que nous avons terminé l'interview. Merci à tous et merci à M. Rouvière pour toutes ses réponses. Voilà.